Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la sainte sourate Qadr. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 26 Shahrivar, 1401 du calendrier iranien, 17 septembre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Au sommet de l'OCS, les présidents russes et chinois ont appelé à un nouvel ordre mondial alors que l'adhésion à part entière de l'Iran a été confirmée. Une cérémonie de deuil d'Arbaïn a eu lieu en présence du leader de la révolution islamique à Téhéran. Nouvelle agression israélienne en Syrie et un nouveau record d'inflation en Europe. C'étaient les principaux titres de l'actualité, voici le journal. Le leader de la révolution islamique a fait l'éloge des cérémonies dans le cadre des commémorations annuelles d'Arbaïn, y compris la marche annuelle des millions de personnes vers la ville sainte irakienne de Karbala. S'exprimant lors d'une audience commémorative auquel ont assisté des étudiants, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que la marche de l'Arbaïn est un événement spectaculaire, un miracle qui signifie la volonté de Dieu Tout-Puissant de maintenir le drapeau de l'islam noble, hissé et flottant. Une telle volonté, a précisé le leader de la révolution islamique, n'est motivée par aucune politique ni mesure d'origine humaine. Au contraire, a-t-il ajouté, c'est la puissance divine qui, à travers cette manifestation à grande échelle, ouvre une route lumineuse devant nous. L'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré que les esprits malveillants, en alimentant des récits déformés, mènent des tentatives inlassables visant à lancer des campagnes contre des événements islamiques clés tels que la marche d'Arbaïn, manière de les saper à des fins intéressées. Le leader de la révolution islamique a ensuite exhorté tout le monde à être patient et à rester ferme et déterminé sur le chemin de la justice et à suivre l'exemple de l'imam Hussein, béni soit-il. Israël a effectué de nouvelles frappes aériennes sur la Syrie, ciblant cette fois l'aéroport international et d'autres zones de la capitale Damas. Le ministère syrien de la Défense, réagissant dans un communiqué, a déclaré que les raids israéliens avaient fait 5 morts parmi les soldats et causé des dégâts matériels. La déclaration n'a pas précisé si les frappes ont affecté les opérations aéroportuaires. Elle a cependant indiqué que les défenses aériennes avaient intercepté et abattu un certain nombre de missiles au-dessus de la ville. Israël a intensifié ses frappes contre les aéroports et les infrastructures civiles dans tout le pays arabe. Récemment, des missiles israéliens ont frappé l'aéroport international d'Alep à deux reprises, causant des dégâts matériels et interrompant les services aériens. Damas a mis à maintes reprises en garde contre de tels actes d'agression. Il a également déposé de nombreuses plaintes officielles auprès de l'Organisation des Nations Unies, exigeant qu'il tienne Israël responsable des attaques et des violations. La Syrie avait également demandé à l'Organisation des Nations Unies et au Conseil de sécurité d'émettre une condamnation claire et explicite contre les agressions répétitives d'Israël sur son territoire. Dans sa dernière lettre adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et au président du Conseil de sécurité, le ministère syrien des Affaires étrangères a rappelé certains des récents crimes israéliens, notamment une attaque contre l'aéroport international de Damas en juin dernier. Il a déclaré que l'attaque avait entraîné la mise hors service complète de l'aéroport pendant 2 semaines. Pour Damas, les agressions israéliennes constituaient une menace directe pour la paix et la sécurité régionale et internationale. Damas dit qu'il se réserve le droit de répondre aux attaques. Les pays européens ont payé plus pour leurs factures alimentaires et énergétiques au cours de ces derniers mois que les mois précédents, principalement en raison des retombées économiques du conflit en Ukraine. En fait, les données officielles indiquent que l'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record le mois dernier. Le Bureau des statistiques de l'Union européenne, Eurostat, a confirmé que le taux d'inflation annuel dans les 19 pays utilisant l'euro s'élevait à 9,1% au mois d'août. C'est une augmentation de 0,2% par rapport au mois de juillet. Le taux actuel est le plus élevé depuis la création de l'euro en 1999. La hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie a exaspéré une crise du coût de la vie qui a touché les ménages et les entreprises dans toute la zone euro. La crise énergétique en Europe fait un effet de boule de neige alors que les pays du continent continuent de faire face à la hausse des coûts et aux pénuries d'approvisionnement avant la saison hivernale et alors même que la saison estivale n'est pas encore terminée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déposé 5 propositions sur la table. Il s'agissait de limiter les revenus des centrales électriques à faible émission de carbone, de plafonner le prix du gaz, d'imposer aux entreprises pétrolières et gazières une contribution de solidarité, d'aider les opérateurs aux prises avec la hausse des appels de marge et de flamber des prix à soutenir le choc financier et réduire la consommation d'électricité aux heures les plus chargées, à l'image de la réduction de la consommation de gaz décidée voici quelques semaines. Les présidents russes et chinois ont appelé à une refonte de l'ordre international lors du dernier sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui a également vu l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à l'organisation signée par les membres. Vendredi, dans la ville ouzbek de Samarkand, le président russe Vladimir Poutine a salué l'influence croissante en dehors du monde occidental. Nous offrons une assistance pour résoudre les problèmes énergétiques et alimentaires qui émergent dans le monde, résultant d'un certain nombre d'erreurs systémiques dans les principales économies mondiales, dans le domaine de la finance et de l'énergie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Espérons que d'autres participants à la coopération économique fonderont également leur politique sur les mêmes principes et cesseront d'utiliser les outils du protectionnisme, des sanctions illégales et de l'égoïsme économique de manière opportuniste, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir qui coopèrent entre eux devient de plus en plus clair, a ajouté le président russe Vladimir Poutine. Le sommet a marqué la première rencontre en face-à-face entre Vladimir Poutine et Xi Jinping depuis le début du conflit en Ukraine, ainsi que le premier voyage du dirigeant chinois à l'étranger depuis les premiers jours de la pandémie de coronavirus. Le président chinois a également exhorté les pays de la région à remodeler le système international et à abandonner les jeux à somme nulle et la politique des blocs. Il a noté que les dirigeants devraient travailler ensemble pour promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et rationnelle. L'Organisation de coopération de Shanghai, composée de la Chine, de l'Inde, du Pakistan, de la Russie et des anciennes nations soviétiques d'Asie centrale, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan, a été créée en 2001 en tant qu'organisation politique, économique et de sécurité pour rivaliser avec les institutions occidentales. À la fin du sommet, les États membres ont publié une déclaration indiquant qu'un mémorandum des engagements de l'Iran avait été signé en vue de l'adhésion du pays à l'Organisation de coopération de Shanghai en tant qu'État membre à part entière. La République islamique d'Iran et l'Organisation de coopération de Shanghai ont entamé un processus formel pour l'adhésion de Téhéran au bloc au mois de mars. L'adhésion de la République islamique d'Iran à l'organisation a ensuite été approuvée par le gouvernement iranien. Lors de son 21e sommet à Douchanbé, la capitale du Tadjikistan, en septembre 2021, l'Organisation de coopération de Shanghai a approuvé des documents pour l'adhésion à part entière de la République islamique d'Iran à cette organisation politique, économique et de sécurité eurasienne. Dans un tweet mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a annoncé qu'il avait signé un mémorandum d'engagement pour rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai. La déclaration a également noté que l'élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai contribuera à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Les États membres ont souligné l'idée que l'élargissement de l'Organisation de coopération de Shanghai et l'approfondissement de la coopération avec les États observateurs, les partenaires de dialogue de l'OCS et les associations internationales renforceront la politique de l'Organisation de coopération de Shanghai et contribueront à renforcer encore son rôle sur la scène internationale en tant qu'un organisme multilatéral pour résoudre les problèmes urgents de notre temps, assurer la sécurité, la stabilité et le développement durable dans la région, lit-on dans la déclaration. La déclaration a salué la décision d'accorder le statut de partenaire de dialogue de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bahreïn, aux Maldives, au Koweït, aux Émirats arabes unis et au Myanmar, tout en annonçant que des documents accordent le même statut à l'Égypte, à l'Arabie saoudite et au Qatar, ont été signés. Les États membres, selon la déclaration, ont salué la signature de protocoles d'accord avec la Ligue des États arabes, l'UNESCO, et la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique, notant que les États membres continueront à rechercher des points de vue communs sur les questions de politique étrangère d'intérêt mutuel, y compris dans les organisations internationales et les forums internationaux.
Bonjour à tous et bienvenue sur nos plateaux de télévision à Presse TV ici à Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, connue au niveau international, représentant la moitié de la population mondiale, rien qu'en comptant les pays d'Asie et d'Eurasie. Il y a eu une réunion ce jeudi et vendredi en Ouzbékistan. Et en marge de cette réunion d'organisation, il y a eu différentes rencontres, notamment Xi Jinping et Poutine, mais pas que. Également, Xi Jinping est ici ce matin, vendredi. Alors, l'OCS, une organisation extrêmement importante à l'heure actuelle, parce que représente, comme je l'ai indiqué, la moitié de la population, mais pas seulement. Il s'est énormément développé, nous montrant un pôle uni contre l'Occident, contre les États-Unis, et permettant pour un pays comme l'Iran et d'autres pays également de passer outre les sanctions. En effet, grâce au fait que l'Iran est devenu membre de l'Organisation mondiale, de cette organisation de coopération, eh bien, l'Iran a déjoué plus ou moins les sanctions que les États-Unis leur avaient imposées, qui les avaient un petit peu mis à part par rapport aux autres pays, empêchant toute coopération, empêchant également des relations économiques avec les autres pays, le point le plus important. Alors, que s'est-il passé ce week-end, enfin ce jeudi, ce vendredi? Que peut-on envisager? Comment peut-on envisager le futur de l'OCS et surtout avec l'Iran? Tout de suite va commencer notre reportage. Je vous tiens après avec nos deux invités pour le débat.
L'Iran a signé jeudi un mémorandum pour adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai. OCS a rapporté l'agence de presse publique russe TASS. Fondée en 2001, l'OCS est une organisation intergouvernementale de coopération en matière de sécurité, comprenant la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan et un certain nombre d'États post-soviétiques. L'Iran était auparavant un membre observateur. L'une des tâches importantes de ce sommet consiste à finaliser des documents de l'OCS pour qu'ils soient signés par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, a annoncé M. Raisi. Téhéran, observateur de l'Alliance régionale depuis 2005, a obtenu son adhésion lors du dernier sommet de l'OCS en 2021 au Tadjikistan. L'Iran veut utiliser au mieux le pouvoir économique et les capacités de la région ainsi que des pays asiatiques au profit de la nation iranienne, a indiqué M. Raisi. Lors du sommet, de nombreuses rencontres entre chefs d'État étaient prévues, mais une attire particulièrement l'attention. Les présidents russes et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, se sont entretenus en marge du sommet. Et pour le maître du Kremlin, cette alliance est une alternative réelle aux structures orientées vers l'Occident. C'est une organisation qui est fermée aux États-Unis, à l'Occident ou encore au Japon et qui souhaite faire la publicité de la bonne entente sino-russe et aussi avec la République d'Asie centrale. Détaille Emmanuel Véron, géographe, chercheur associé à l'école navale et à l'INACLO. La Chine est disposée à travailler avec la Russie afin de promouvoir un ordre international plus juste et raisonnable, a également affirmé en amont du sommet Yang Jiechi, le responsable de la diplomatie au sein du Parti communiste chinois. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Xi Jinping apporte son soutien à son ami Vladimir Poutine, ni que les diplomaties chinoises et russes évoquent la nécessité de mettre en place un nouvel ordre mondial.
Nous revoilà sur le plateau du débat. Comme le veut la tradition, le débat de deux personnes, deux invités. Nous avons donc aujourd'hui M. Philippe Hugon, reporter de guerre, et M. Luc Michel, géopoliticien. Bonjour.
Oui, bonjour à vous et bonjour à M. Hugon.
Bonjour à Jean-Luc.
Bonjour, bienvenue à nouveau avec nous de manière virtuelle sur le plateau de Presse TV à partir de Téhéran. Aujourd'hui donc, vous l'avez deviné, nous allons parler de l'OCS et également le besoin, par le biais de cette organisation, du besoin de l'Iran à l'heure actuelle. Pour commencer, je propose donc de commencer, si ça ne vous dérange pas, avec M. Luc Michel. Quelques mots sur donc, ce sommet qui a lieu donc, ce jeudi et vendredi.
C'est important parce que l'OCS est en train de se structurer en front anti-occidental et anti-américain. Et avec l'adhésion de l'Iran et le partenariat militaire Moscou-Téhéran, l'OCS est en train de se transformer en anti-OTAN, en alliance militaire, alors qu'il s'agissait surtout d'une alliance économique et géopolitique jusque maintenant. C'est la vraie communauté internationale avec Pékin, Moscou, Téhéran, mais aussi le Pakistan et l'Inde, et 14 ex-républiques soviétiques. C'est presque 6 milliards d'hommes et de femmes quand l'Occident fait moins d'un milliard. C'est cela qu'il faut retenir, la vraie communauté internationale, c'est la communauté du monde multipolaire. Et c'est très important aussi, c'est de voir l'Inde et le Pakistan dans l'OCS, puisque jusque maintenant, l'Inde était un partenaire militaire de la France et des États-Unis dans l'océan Pacifique. Et le Pakistan était depuis les années 1970 le principal partenaire militaire des États-Unis. Aujourd'hui, avec leur participation à l'OCS, ils sont en train de se détourner. Il y a encore intéressant de suivre qu'il y a un État membre de l'OTAN qui est là comme observateur à la Réunion, c'est la Turquie. C'est une ligne de fracture de plus au sein du bloc américain occidental. Ceux qui racontent que la Russie dans le dossier ukrainien est isolée, eh bien, le sommet de l'OCS est en train de démontrer qu'il n'en est rien.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, voulez-vous rajouter quelque chose à ce que Monsieur Luc Michel vient de dire ?
Oui, alors moi je dirais qu'en fait aujourd'hui le monde occidental paye un peu ses erreurs du passé, et quand je parle d'erreurs du passé, c'est un demi-siècle, hein. C'est une cinquantaine d'années, donc il y a très longtemps qu'on aurait dû incorporer dans des relations multilatérales avec l'Inde, le Pakistan et bien sûr l'Iran. On a cherché à marginaliser un petit peu ses relations avec tous ces pays, avec la Chine, avec la Russie. Alors bien sûr, le monde occidental aujourd'hui a une excellente excuse avec le conflit ukrainien, hein, que les Russes ont déclenché en Ukraine. Donc ça fait une excuse supplémentaire pour le monde occidental de façon à marginaliser un petit peu les pays un peu, entre guillemets, je dirais, dissidents. Donc moi, je suis ravi de voir que l'OCS est en train de fédérer un certain nombre de grandes nations, et pas seulement des grandes nations, mais également d'ex-républiques soviétiques, et ce qui permettra de rééquilibrer, je dirais, la situation, puisque depuis... Depuis une cinquantaine d'années, on voyait l'Occident qui se permettait d'ingérer d'une façon permanente dans les affaires d'État et des affaires qui ne les concernaient pas et qui imposaient un certain dictat à la fois financier, commercial et politique. Donc personnellement, moi je suis vraiment ravi de ce qui arrive aujourd'hui, en espérant que ce déséquilibre puisse rééquilibrer une situation face au monde occidental qui s'est permis de faire un peu n'importe quoi.
Merci, Monsieur Philippe Hugon. Donc, pour résumer, c'est vrai, les pays se sont plus ou moins sentis isolés dans les pays d'Asie, ayant plus de relations avec les pays européens qu'avec leurs propres voisins, donc forcément provoquant des instabilités aux frontières. Il faut se rappeler, il y a pas 10 ans, la Chine et l'Inde voulaient, aux alentours des frontières du Tibet, étaient au bord de l'affrontement. Alors, à l'heure actuelle, 10 ans après, on est très très loin de ce genre de conflit au sein de l'Asie. Pourtant, il reste encore deux gros problèmes pour ces pays de l'OCS. Il y a Taïwan et il y a l'Ukraine. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, est-ce que ce n'est pas la situation ukrainienne-taïwanaise qui ont poussé finalement en 2021 à accepter l'adhésion de l'Iran à l'OCS, Monsieur Luc Philippe?
C'est la volonté tout à fait de Vladimir Poutine d'en finir avec le nouvel ordre mondial américain. En 1991, à la chute de l'Union soviétique, Bush père a proclamé le nouvel ordre mondial et Fukuyama a proclamé la fin de l'histoire. C'était la démocratie libérale et l'économie américaine qui l'emportaient, et la superpuissance américaine a dominé le monde pendant 30 ans. Maintenant, c'est terminé. Ça a des conséquences géopolitiques fondamentales. Vous savez qu'en géopolitique, il y a un affrontement fondamental entre, d'une part, les puissances maritimes représentées par la Grande-Bretagne au XIXe siècle et à partir de 1917 à 1943, remplacées par les États-Unis. Et il y a une opposition contre la puissance continentale, ce que les géopoliticiens appellent le « heartland », le cœur du monde. Aujourd'hui, le cœur du monde, c'est l'Eurasie. Il est en train de s'unifier. C'est une défaite fondamentale pour les puissances maritimes. Les États-Unis, c'est une puissance sans histoire et sans civilisation. Le grand philosophe allemand Hans Wegener disait que les Américains étaient passés de la barbarie à la décadence sans avoir connu la civilisation. Face à eux, il y a maintenant une alliance de vieux empires, de vieux états-civilisations. La Russie, qui est la troisième Rome, qui est 27 siècles d'histoire derrière elle. La Chine, qui est l'empire du milieu, qui a plus de 20 siècles d'histoire. Et enfin, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse, qui était déjà un empire avant Athènes, il y a 25 siècles. C'est cela, c'est la revanche des peuples avec une histoire et une civilisation contre l'anticivilisation et la barbarie.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Philippe Hugon, vous-même, reporter de guerre, ayant l'expérience de ce qui se passe sur le terrain, à l'heure actuelle, on est face à deux grands conflits de marge. Certains disent que si l'Occident et cette alliance occidentale qui existe avant les Premières et Secondes Guerres mondiales échouent, eh bien, c'est tout le monde entier, le multipolarisme qui va changer, mais donnant plus de force à cette Asie, et notamment avec le biais de cette organisation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, oh ben, il est clair que l'équilibre mondial est en train de changer et que le clan, je dirais le clan occidental, a déjà perdu sur un certain nombre de domaines. On voit bien la décadence de nos sociétés occidentales. Hein, et il est vrai qu'aujourd'hui, la puissance financière chinoise fait qu'avec l'OCS, va pouvoir fédérer un certain nombre de pays. Et je vous dis bien, on est les responsables de cette situation. Pourquoi nous n'avons pas incorporé l'Iran depuis 30 ans dans les accords internationaux? Et plutôt que de marginaliser et prendre des points, je ne dirais pas des points de détail, mais des points politiques, hein, même s'ils étaient importants, de composer. Hein, on a bien vu le monde occidental composer avec un certain nombre de pays pour arriver à passer certains accords. Moi, je pense qu'on mélange un petit peu tout aujourd'hui, dans le sens où il faut que la diplomatie reprenne le dessus, que l'argent s'efface. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et on le voit aujourd'hui dans tous les conflits depuis 30 ou 40 ans. L'argent joue un rôle déterminant, donc on n'a plus vraiment cet équilibre culturel, cet équilibre social, cet équilibre, je dirais cet équilibre de bon sens qui permettait de désamorcer certains conflits, de désamorcer certaines situations conflictuelles. Et aujourd'hui, eh bien, je dirais que le monde occidental paye son manque de lucidité à long terme sur la politique internationale. Et aujourd'hui, on voit très bien avec l'OCS qui fédère toutes ces nations qui ont été mises un petit peu de côté par le monde occidental. Et aujourd'hui, eh bien, tout ceci montre bien que l'OCS est en train de rétablir l'équilibre, non seulement de rétablir l'équilibre, mais de prendre le dessus sur le monde occidental.
Merci à M. Philippe Hugon. Alors, comme vous l'avez déterminé, l'Iran est quand même arrivé assez en retard dans cette organisation. Pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Avec toutes les sanctions que depuis la révolution, l'Iran doit subir, bien entendu, eh bien, les pays ont eu peur d'interagir avec l'Iran, ont eu peur de d'intégrer l'Iran dans les organismes ou juste d'en faire une relation économique. C'était extrêmement compliqué, mais finalement, vous avez dit une phrase très intéressante qui dit « ils ont fait des erreurs ». Est-ce qu'on peut dire, monsieur Luc Michel, que la première erreur a été de pousser les pays à ne plus faire attention aux sanctions, c'est-à-dire de ne plus valoriser les sanctions? Le premier problème a été ça, finalement. L'Iran est maintenant dans l'OCS, pas parce que les Russes et les Chinois et les Iraniens sont devenus des grands amis, mais par besoin, par nécessité réelle.
Écoutez, Xi Jinping a appelé hier la Russie et la Chine à prendre la direction du monde en tant que puissance responsable. Les Américains ont fait au début du dossier ukrainien une erreur fondamentale, un excès d'hubris, c'est-à-dire l'arrogance que donne la puissance. Ils ont cru que cette guerre des sanctions qu'ils imposaient à des petits États allait marcher contre un État continent comme la Russie. Et ils ont échoué. La fin du nouvel ordre mondial a une conséquence économique. C'est la fin de la globalisation américaine, la dédollarisation du monde, la fin des institutions mondiales, banques mondiales, fonds monétaires internationaux, etc. Mais il y a aussi une conséquence évidemment militaire. L'Occident a cherché à neutraliser la Chine sur le dossier de Taïwan, à neutraliser la Russie sur le dossier de l'Ukraine. Il y a actuellement une intense propagande de guerre de l'OTAN qui fait croire que la Chine et la Russie auraient échoué, alors que c'est exactement l'inverse. Ce qu'il faut retenir le plus important depuis ces trois derniers jours, ce ne sont pas les déclarations principalement de Xi Jinping, mais du numéro 3 chinois. Le numéro 3 chinois a abandonné la neutralité de la Chine dans le dossier ukrainien. Il a déclaré que la Chine comprenait la Russie, que l'OTAN était l'agresseur et que depuis les premiers jours, la Chine aidait la Russie. C'est très important, évidemment, parce que les Occidentaux, en particulier Joseph Borrell au sein de l'Union européenne, comptaient sur la Chine comme un intermédiaire vis-à-vis de la Russie pour contribuer donc à ce que l'Occident gagne le dossier ukrainien. Ce ne sera pas le cas. C'est une déroute complète pour l'Union européenne qui est la grande perdante du dossier ukrainien. Mais c'est aussi une défaite américaine malgré toute l'aide apportée à l'Ukraine. Ce matin, il y a eu Poutine qui a menacé les États-Unis. Il a prévenu que si les États-Unis fournissaient des missiles à longue portée à l'Ukraine, la ligne rouge serait franchie et que les États-Unis deviendraient comme belligérants dans le dossier ukrainien, avec toutes les conséquences dommageables. C'est une révolution géopolitique. Il faut retenir que ce n'est pas un hasard tout ce qui se passe. Ceci a été planifié par Vladimir Poutine depuis le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie en 2014.
Merci à Monsieur Luc Michel. Pour repasser vers Monsieur Philippe Hugon, comme je l'ai indiqué plus tôt, si les Chinois et les Iraniens et les Russes sont redevenus, coopèrent, c'est pas par pure amitié. Si on regarde même historiquement parlant, on peut pas dire que ça a toujours été au beau fixe entre ces trois pays. Il y a donc bien une bonne raison pour laquelle finalement cette OCS se tourne vers l'Iran. C'est un peu le grenier, puisqu'il faut se rappeler que l'Iran est extrêmement riche dans ses sols, que ce soit au niveau minéral, que ce soit au niveau de l'énergie, gaz ou pétrole. Est-ce que donc il n'y a pas une raison bien géopolitique, comme l'a dit Monsieur Luc Michel, concernant cette adhésion et également cette rencontre entre Xi Jinping ce matin et Monsieur Raisi, première rencontre d'ailleurs entre ces deux chefs d'État?
Oui, alors il faut bien savoir que ce sont des alliances qui se font par nécessité, pas forcément parce que les gens ont des affinités, enfin que ces pays ont des affinités, mais que c'est un peu une obligation économique. Et puis, il faut bien savoir que derrière se tient en embuscade le monde occidental et les États-Unis, qui ne sont jamais en retard pour fomenter des mauvais coups. Donc, moi, je pense que, comme je vous le disais, nous sommes directement responsables, nous, monde occidental, de la situation actuelle. On a toujours imposé beaucoup de choses à plein de choses. Alors, moi, sur le conflit ukrainien, j'ai une position un petit peu différente parce que j'ai une position un peu d'humaniste dans le sens où, quand je vois tous ces gens se faire tuer pour de mauvaises raisons, je suis très perturbé par ça parce que vraiment tous ces morts innocents, ça me perturbe beaucoup. Mais d'un autre côté, je comprends tout à fait que le bloc de l'Est ne puisse pas tolérer un certain nombre de décisions américaines, hein, puisque les Russes n'avaient rien dit pendant des dizaines d'années, avaient laissé faire un petit peu les choses parce que la Russie était très affaiblie économiquement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc je pense que c'est une bonne chose de rétablir l'équilibre. Maintenant, moi, vous savez, j'ai toujours cette pensée pour tous ces innocents qui meurent pour rien. Et je suis très perturbé, comme je vous le disais, parce qu'il faut le vivre sur place. C'est très bien d'en parler comme ça à la télé, à la radio, dans les journaux. Mais quand vous le vivez, quand vous vivez un conflit au plus près, on ne voit plus vraiment les choses de la même façon. Donc, même si je comprends un certain nombre de positions russes sur le dossier ukrainien ou sur un certain nombre de dossiers, moi je pense que nous sommes occidentaux et empire du milieu, hein, de Russie, tout ce que vous voulez. Je pense que malheureusement, on ne pense pas assez aux dommages causés à toutes ces générations qui vont arriver.
Merci à Monsieur Philippe Hugon. Je repasse donc à Monsieur Luc Michel. C'est quoi le rôle maintenant de l'Iran dans cette OCS? Quel va être le rôle joué par Téhéran face à cette organisation? Son utilité?
Écoutez, dès 2015, moi j'avais annoncé le rapprochement de Téhéran et que Téhéran allait prendre sa place en Eurasie en mars. C'est la troisième grande capitale avec Moscou et Pékin de l'Eurasie. Mais je ne partage pas votre thèse selon laquelle cette alliance serait opportuniste. En effet, il y a des affinités profondes entre Moscou, Téhéran et Pékin. Ces affinités sont géopolitiques. D'abord, ce sont trois puissances eurasiatiques dont l'alliance était commandée par la géographie. Deuxièmement, ce sont trois vieux empires de ces états-civilisations partagent donc la même vision civilisatrice par rapport à la barbarie américaine. Et troisièmement, ce sont des économies dirigées. Ce ne sont pas des démocraties libérales, contrairement à tous les pays du bloc occidental. Donc leur alliance n'est pas du tout opportuniste. Elle est déterminée par la géopolitique et par l'histoire. Maintenant, moi, je ne me considère pas comme un occidental. Je suis partisan de la Grande Europe, de Vladivostok à Dublin, qui est opposé aux États-Unis. Je ne suis pas parti de cet Occident. J'ajouterai quelque chose. En Ukraine, c'est la Russie, en réalité, qui est agressée par l'OTAN. Il est temps que l'Ukraine disparaisse en tant qu'État pour que la Grande Europe puisse vivre et qu'on lève l'opposition et la menace que l'OTAN fait peser sur le monde.
Merci, Luc Michel. Merci, Monsieur Luc Michel. Je suis vraiment désolée de mettre fin à la discussion. Malheureusement, le débat se finit maintenant. Vous l'avez bien compris, l'OCS s'est passé cette semaine, jeudi et vendredi. Les grands dirigeants de cette organisation se sont rencontrés, notamment le président chinois et Vladimir Poutine, mais pas seulement. Le président chinois et Monsieur Raisi, président de l'Iran. Donc beaucoup de choses sont à dire concernant ce sommet. Nous, on s'arrête là pour ce débat. Je vous dis donc à la prochaine fois à Prestige Français, ici, à partir des locaux de Téhéran.
Parole d'experts.
C'est vrai que les suites de la guerre, déjà depuis 2 ans entre l'Azerbaïdjan et l'Arménistan, ou l'Arménie, n'étaient pas complètement réglées. Les problèmes de corridors n'étaient pas complètement en fait négociés, et donc on était à la merci d'incidents de frontières. C'est triste parce que ce sont des régions pauvres, montagneuses, qui ont eu beaucoup de dégâts humains. Mais je pense qu'effectivement, c'est le retard à finaliser des négociations internationales, le fait qu'il n'y ait pas assez d'interventions justes et efficaces des Nations Unies ou de l'Union européenne pour trouver des solutions justes pour ces deux pays, pour faciliter la communication, faciliter les échanges commerciaux et humains, la complémentarité des économies. C'est l'absence justement de médiation forte, active, qui puisse aider les deux parties à trouver des solutions, qui fait qu'on est toujours à la merci d'incidents. C'est un peu le même phénomène qu'on a entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des incidents guerriers dès 2014, le processus de Minsk, mais une certaine lenteur, passivité des Européens impliqués dans ces accords de Minsk, ça fait que les solutions n'ont pas été trouvées à temps et que l'impatience d'un pays, en l'occurrence la Russie, et aussi certains troubles aussi aux frontières, ont déclenché une guerre. Donc je pense que c'est, encore une fois, c'est l'absence d'un rôle efficace, juste, impartial des Nations Unies, sans aucune influence d'aucune des grandes puissances ou des petites puissances qui aiment à faire des troubles à droite et à gauche, c'est l'absence de ce rôle impartial qui fait que les incidents reviennent. Quant à la Turquie, je pense que le président Erdogan a dit 2 fois, une fois le 4 avril et une fois récemment, il y a quelques jours, qu'il voulait arranger la situation avec la Syrie, parce qu'actuellement il est dans une impasse. Il y a une impatience, il y a aussi une crise économique très forte en Turquie. Il commence à y avoir une irritation des Turcs vis-à-vis de la présence de plus de 3,5 millions de réfugiés syriens. Et donc, en l'absence de solutions, à cause de cet énervement de la population turque, que je connais bien, mais qui s'impatiente vers la présence des réfugiés, dans un cas de crise économique, de manque d'emploi, il y a des solutions politiques à trouver. Et je ne pense pas que ce soit une nouvelle invasion de la Turquie dans un complément de corridor en Syrie qui puisse arranger les choses. Heureusement, ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Iran ne sont déclarés favorables à cette action. Ils ont prévenu la Turquie que ce serait très dommageable si elle prenait encore une nouvelle initiative d'invasion d'une partie du territoire de la Syrie. Donc le président Erdogan, d'ailleurs, a dit qu'il voulait l'intégrité territoriale de la Syrie. Donc en fait, il faut trouver une solution à ces problèmes économiques et humains. Il faut arriver à solder les suites de la guerre civile entretenue par le Qatar et par l'Arabie saoudite, avec la complicité de la Turquie, de la France, des États-Unis. Il faut que tous ces gens-là reconnaissent leurs erreurs commises en Syrie depuis maintenant 12 ans et trouvent des solutions. Donc là aussi, le rôle des Nations Unies doit être impartial, efficace, arriver à trouver des solutions efficaces. Ce suppose des efforts diplomatiques considérables pour éviter ces reprises de guerre et ces crises économiques qui sont très dommageables au plan humain.
Propagande hollywoodienne pour l'armée américaine au cinéma. Au milieu des années 80 et après la médiatisation des crimes de guerre commis par l'armée américaine au Vietnam, un important mouvement pacifique dans les années 60 et 70 et une vague de films anti-guerre comme Apocalypse Now et Ceux qui traversent l'enfer ont ruiné la réputation des forces armées américaines. Mais un film a largement contribué à changer la donne, Top Gun de Jerry Bruckheimer avec Tom Cruise dans le rôle principal. Doté d'un budget de 15 millions de dollars, le film a rapporté 356,8 millions. Le grand succès du film est sans aucun doute dû en partie à l'US Navy qui, par le biais du DOD Entertainment Office, met des porte-avions et des chasseurs à la disposition de la production. Ce bureau du ministère américain de la Défense existe curieusement depuis 100 ans et a coopéré pour la première fois avec des cinéastes en 1927 pour le film Vines sur les pilotes de chasse pendant la Première Guerre mondiale. Et la marine américaine en a également profité. Après la sortie du film en 1986, on a assisté à une augmentation de 500% du nombre de jeunes pilotes dans la marine, notamment parce qu'il y avait en même temps des recruteurs militaires devant les salles de cinéma. Parallèlement, le ministère américain de la Défense contrôle ainsi les messages véhiculés par le film. L'ensemble du scénario doit être approuvé au préalable. Top Gun, avec ses scènes d'action rapide et ses manœuvres aériennes, n'est donc pas seulement un bon film d'un point de vue technique, mais aussi un message publicitaire efficace en faveur de l'impérialisme américain. Il ne fait aucun doute que le film laisse un goût amer lorsque l'on sait que ce sont précisément les pilotes américains qui ont bombardé l'Irak, la Yougoslavie, la Libye et bien d'autres pays au cours des 30 dernières années, causant la mort de millions de personnes. 36 ans plus tard, Tom Cruise et les forces armées américaines réitèrent cette manœuvre dans les salles de cinéma, cette fois avec le film Top Gun Maverick. Cette fois encore, il s'agit essentiellement d'un film de guerre qui glorifie l'armée américaine de manière ridicule et dépeint une troupe qui place la camaraderie et l'abnégation au-dessous de tout. Si l'on considère le taux élevé de suicides dans les forces armées américaines, cela aussi se moque de la réalité. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il manque de contexte ou qu'il le laisse dans l'eau. Top Gun Maverick ne prend même pas la peine de justifier la politique étrangère américaine. Un État voyou non identifié veut construire un réacteur nucléaire et l'escadron d'élite Top Gun doit le détruire lors d'une opération commando. Il n'y a pas de débat sur la motivation de l'État voyou à vouloir construire ce réacteur et on ne montre pas non plus les protagonistes de l'État ennemi sans visage qui ne servent que de chair à canon anonyme pour les aides de l'aviation américaine. Du point de vue des États-Unis, de tels films peuvent être compréhensibles, mais seuls les maîtres du complexe de divertissement militaire d'Hollywood et de Washington savent pourquoi les spectateurs allemands et européens qui ont également eu à souffrir des bombes américaines dans le passé sont contraints de voir de tels films.
Thank you.